Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 57e épisode numéro 56. Nous sommes le 16 septembre 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Alexandre Duval. Bonjour Alexandre, qui êtes-vous ?
Bonjour Hubert, je suis dev chez Clever, je m'occupe aussi de l'astreinte, des add-ons, de la nouvelle stack de log qui va bientôt arriver, ce genre de choses.
Je suis également accompagné de Julien Durion. Bonjour Julien, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis aussi développeur chez Clever Cloud, je gère des serveurs aussi, j'installe péniblement des hyperviseurs cette semaine, et les factures c'est ma faute.
Et tu as une voix de crooner aujourd'hui.
En plus j'ai une voix de crooner aujourd'hui.
Et aujourd'hui nous sommes accompagnés d'un invité de marque, j'ai nommé Horacio González. Bonjour Horacio, qui êtes-vous ?
Bonjour, moi c'est Horacio, je suis responsable de la partie d'Evrel chez OVS Cloud et je suis très content d'être ici aujourd'hui avec vous les amis.
Ben nous on est très content de t'avoir et du coup, qu'est-ce que tu fais de beau dans cette équipe chez OVH Cloud ? Faut pas que j'oublie de dire Cloud à la fin.
Il faut pas que tu oublies de dire Cloud en effet. Moi ça fait presque 4 ans que j'étais arrivé chez OVH et je m'occupe de la partie d'Evrel, relation avec les développeurs ou comme certaines personnes disent, des lanceurs de paillettes.
Carrément.
Et maintenant, cette équipe lanceur de paillettes s'est agrandie. On a récemment reçu Aurélie Vache qui a rejoint l'équipe. Il y a d'autres personnes qui vont les rejoindre. Et l'objectif, c'est de partager partager les produits OVH Cloud, parler de technologies, rencontrer les communautés, recevoir des feedbacks, toutes ces choses-là qui font les lanceurs de paillettes, c'est-à-dire interagir avec les communautés et les techos, quoi. Et venir faire des podcasts avec les amis comme aujourd'hui.
Du coup, tu vas avoir de la concurrence avec Aurélie sur les beaux dessins que tu fais sur les blog posts depuis plusieurs années. Je pense qu'elle a un sacré niveau là-dessus.
Je pense que, de facto, on est en train de construire une équipe de gribouillères parce que la troisième personne qui arrivera en décembre est aussi fan de crayons. Oh mince, il vient de faire un spoiler. Donc oui, c'est une équipe dans laquelle le côté gribouillard et la communication visuelle a une autre importance.
C'est un podcast qui balance des infos implicites. La semaine dernière, Horacio, on va commencer tout de suite par un faux lien, on va dire, pour parler d'actu. La semaine dernière, tu étais à Lille, dans cette charmante ville de Lille, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que tu faisais de beau à Lille ?
Bon, à part manger avec mon ami Hubert, que c'était plutôt très cool, et à Lille, j'étais pour les FIC, le Forum International de Cybersécurité. Et pour moi, à part l'intérêt des forums en soi, et à part qu'il y avait tous les interlocuteurs, et à part d'être le seul forum que je connais où on voit dans les allées plein de monde en uniforme avec un flingue à la ceinture, mais simplement parce que c'est des policiers, des gendarmes et des militaires qui travaillent dans la cybersécurité et quand ils vont arriver dans les stands, ça fait un peu bizarre. À part ça, c'était le premier gros événement pour moi après la pandémie et c'était impressionnant de revoir autant de monde de... Il y avait des commerciaux, il y avait des techos, il y avait presque tout le monde qui travaille sur la cybersécurité en France et ça ressemblait d'une certaine façon revenir vers le monde d'avant, avec masque, avec distanciation sociale, mais quelque part, ça faisait de bien, carrément, et on voyait que les gens étaient, mis à part toutes les considérations business, les gens avaient l'air vraiment super content de se revoir en vrai après une année et demie de ça et de pouvoir discuter, échanger et partager un café. Quoi.
Ouais. Ça dure combien de temps ?
Ça a duré 3 jours,
ouais.
Mardi, mercredi, jeudi. Et il y a eu, comme d'habitude dans cet événement aussi gros, il y a eu des interventions de politiciens, de PDG, de plein de monde. Il y a eu beaucoup de stands avec beaucoup de compagnies, beaucoup d'entreprises qui étaient présentes. Il y a eu surtout beaucoup de monde dans les salles. Et c'était très intéressant de revoir comment l'écosystème, on va dire comme ça, se remet en route et comme certes, le virtuel a énormément d'avantages, mais il reste quand même de la place pour des physiques, comme dirait ma collègue Aurélie, on fait des physiques.
Ouais. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un slogan que vous avez mis sur les t-shirts de l'organisation de Riviera Dev, si je ne dis pas de bêtises.
Des rendez-vous des speakers, qu'on est allé presque ouais. tous à Riviera Dev. Donc ouais. on a une photo où on est tout l'orga des rendez-vous des speakers avec les t-shirts, je fais des physiques.
Il y a eu distribution de t-shirts auprès de notre secrétaire d'État, j'ai cru entendre.
Oui, quelque chose comme ça, j'ai vu, mais voilà, c'est, okay. c'est aussi logique qu'ils récupèrent des t-shirts à droite et à gauche. okay. Par contre, il y a eu aussi notre ouais. secrétaire d'État qui a passé par notre usine à Croix où on fabrique les serveurs et tout ça, et c'était vraiment excellent aller voir là et pouvoir les montrer cette partie-là de ce qui est OVH ouais. Cloud, qui est peut-être un peu moins connu que les côtés purement hosting et service dans les clouds, le fait qu'on fabrique tout dans une usine, dans le nord, et on assemble nos serveurs là-bas.
Ouais. Cool. On va enchaîner avec un lien que j'ai proposé, mais on va tous rebondir dessus. Donc, c'est un lien de The Verge qui parle du procès qui opposait Apple et Epic, qui vient de se terminer. En tout cas, il y a eu un jugement qui a été rendu. Petit rappel, en août 2020, Epic, la société qui édite le jeu Fortnite, donc bon. Normalement, moi j'y ai jamais joué, mais normalement vous en avez entendu parler ou vous y avez joué des heures et des heures. La société qui édite le jeu Epic a commencé à essayer de contourner le système de paiement d'Apple. Donc pour rappel, Apple vous impose de passer par leur système de paiement in-app et prend 30%, si je ne dis pas de bêtises au passage. Et donc Epic a commencé à essayer de contourner ce système, ce qui a en fait entraîné le fait que Epic se fasse virer Fortnite de l'App Store. Et je crois qu'il y a eu la même chose chez Google Play par la suite, ça je ne sais plus trop. Vous souvenez ou...
Je n'ai pas suivi ce qu'ils ont fait chez Google Play.
Et donc là, l'article parle du jugement qui vient d'être rendu. Et donc, si j'ai bien lu, d'ici 90 jours, donc le 9 décembre, les applications sur iOS ne... En fait, que je ne dise pas de bêtises. À partir du 9 décembre, les applications sur iOS ne seront plus obligées de passer par le système de paiement in-app. Donc, c'est marrant parce que moi, avant de lire l'article, j'ai juste lu le chapeau et je me disais que c'était plutôt positif. Et en fait, dans l'article, ils expliquent qu'il y a un autre jugement où, en fait, la cour affirme que Epic a violer le contrat qui les lie à Apple en implémentant ce système de paiement alternatif. Et donc, ils doivent en dédommagement 30% de tous les revenus, je ne sais pas quoi, ce qui fait à peu près 3,5 millions.
C'est ça. Bon,
je ne sais pas à quel point Epic est riche, mais 3,5 millions, c'est toujours une sacrée somme. Pour Apple, c'est... c'est pas tant que ça. Et en fait, c'est assez étonnant parce qu'Apple a l'air d'être content de cette partie du jugement et Epic a l'air d'être déçu parce qu'en gros, la juge a redit qu'il n'y avait pas vraiment situation de monopole de fait de par les lois californiennes. Enfin, encore une fois, hein, c'est très légal, technique. Lisez l'article.
C'est des jugements complémentaires.
Ouais.
Et ce que j'ai vu un peu à droite à gauche, c'est que en gros, tous les deux ont perdu d'une certaine façon parce que, oui, maintenant, ce qui gagne, c'est tous les développeurs iOS qui, dans 3 mois, ils vont pouvoir proposer une méthode alternative. Il restera le paiement Apple, mais il y aura une méthode alternative. Et en même temps, la juge a reproché à Epic d'avoir fait ça à l'usarde. Mmh. Et donc, ils ont dit, oui, Apple vous a banni, avec les normes qu'il y avait, ils étaient en droit de vous bannir et vous restez banni. Et le problème, ce n'est pas les 3 millions qu'il doit rendre, c'est qu'ils veulent se priver de marché iOS pour Fortnite. Et ça, c'est le gros problème. C'est un potentiel perte de revenus énormissime. C'est pour ça qu'Epic est tellement déçu. Les 3 millions, c'est peanuts. Les projections qui prévoient qu'il pourrait avoir 500 millions de plus s'il y avait des gens sur iOS qui utilisaient Fortnite, ça fait beaucoup plus mal. Et Apple va valider le fait qu'il aurait fallu aller au jugement avant de se permettre de changer les règles de façon unilatérale. Donc, ouais. Quelque part, la juge a donné des coups de règle à tous les deux. Méchant. Tout le monde a peu perdu, sauf les développeurs iOS, à mon avis.
Ouais, en tout cas, je crois qu'on en avait parlé. Je vais mettre le lien dans les show notes. À l'époque, on avait parlé d'un lien de DHH chez Hey, l'éditeur de mail. Et en fait, il y a pas mal d'autres applications dans ce genre-là où en général, tu t'inscris ailleurs, mais tu vas utiliser l'app sur iOS pour consommer du contenu. Il y avait des règles un peu particulières pour certains services de streaming, mais là, ça va vraiment changer la donne pour toutes ces applications-là, parce qu'historiquement, de fait, ce système de paiement fait que les clients via iOS ne sont pas vraiment tes clients, ils sont avant tout des clients... d'Apple. Si je dis pas de bêtises, je crois que je suis client Salto via les paiements in-app d'Apple. Et du coup, ça, enfin, moi, dans mes comptes, je le vois comme un prélèvement d'Apple et mon renouvellement est fait de cette manière-là. Mmh. C'est pas vraiment sous-traiter le paiement, c'est carrément sous-traiter l'abonnement, quoi, en fait. Mmh.
C'est ça.
Enfin, bon. Et il y avait un énorme thread que j'avais lu cet été, pendant qu'il y avait le court hearing, tout ça, là, voilà, et qui était super, enfin, c'est très de la technique de juridique, ouais. Mais c'était super intéressant quand même. Par exemple, il y avait la question de, est-ce qu'on considère que Apple est en, comment on appelle ça,
en position,
est en position voilà, de monopolistique, et Epic essayait de prouver que oui, sur le marché iOS. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le marché des portables, non, Apple n'a pas de monopole, mais sur le marché iOS, l'Apple Store est en position de monopole parce que tu n'as pas le droit d'utiliser un autre store, contrairement à Google, où tu peux avoir des stores alternatifs pour Android. Et ouais, c'est... Bon, moi, j'avais trouvé ça super intéressant de lire ce thread.
Ouais, et la fin n'a pas été retenue. À la fin, c'est juste la partie qui craignait le plus Apple et que la juge n'a pas validé. Donc, il faut qu'ils mettent un paiement alternatif, mais ils ne sont pas obligés d'ouvrir à des App Store externes.
Et ça me parle, le thread dont tu parlais, Julien, parce qu'il y avait aussi... moi, sur Twitter, je suis des gens qui, toutes les deux semaines, te rappellent que sur iOS, tu ne peux avoir qu'un seul navigateur qui est WebKit. Après, bon, t'as Chrome, Firefox qui, en fait, réutilise WebKit, mais t'as pas de concurrence là-dessus. Et du coup, ça dérivait souvent sur des live tweets qui t'expliquent que pendant les audiences, ils essayaient d'expliquer en quoi... Le verrouillage de l'App Store ou du moteur de rendu, etc., avait un intérêt de sécurité ou je ne sais pas quoi. C'est... Bon, en tout cas, ça n'a pas été retenu de cette manière-là, quoi. On va enchaîner avec un lien de Julien qui va nous parler de Java et des licences Java.
Ouais. Eh bien, il y a Java 17. C'est vrai qu'on aurait pu faire un petit passage sur Java 17, et en fait, on n'y a pas pensé dans cet épisode. Il y a Java 17 qui est sorti en début de semaine, voire hier ou avant-hier. Bref, ça reste le début de semaine. Et donc Java 17 qui est la nouvelle LTS, donc long terme support, qui est le... Donc c'est une version qui va être maintenue pendant un certain nombre d'années. Pour donner une idée, la dernière, c'était Java 11, qui a, 6 ans, 7 ans ? Un truc comme ça. Et en gros, les LTS donc, sont supportés pendant assez longtemps, et quand il y a une nouvelle LTS qui sort, tous les patchs de sécurité et tous ces trucs-là de l'ancienne LTS sont encore maintenus pendant un an, si je ne dis pas de bêtises. pour laisser le temps aux gens de bouger. Et bon, on ne va pas forcément rentrer dans les détails des nouveautés de Java 17. On avait déjà dû parler des nouveautés de Java 16 et 15 peut-être. Et il n'y a pas tant de nouveautés que ça dans Java 17 en tant que tel. C'est comme si une LTS, souvent, c'est une release de consolidation.
Ouais, c'est ça vient tamponner le...
C'est ça, va y avoir plein de petits bugs qui ont été corrigés. Et ça vient effectivement tamponner, valider tout un tas de changements qui ont été faits sur les 5 versions précédentes, quoi. Mais en tout cas, avant, en fait, Oracle fournissait l'Oracle JDK, donc qui était, en fait, donc, Oracle ayant racheté Sun qui faisait Java, si je dis pas de bêtises. Il y a tout le monde qui avait peur du truc, en se disant, bah voilà, Java va devenir payant. Donc quand on dit Java, c'est la JVM et potentiellement le compilateur et ce genre de choses, et même utiliser le langage. Et en fait, il y avait deux choses en parallèle. Il y avait OpenJDK, qui était la version vraiment open source libre, et la Oracle JDK, qui était la version plus entreprise, du coup payante, avec des, comment on appelle ça, des... j'ai oublié le mot, des avec du support, etc., ouais, pour les support, entreprises, quoi. Et en fait, Oracle a fait un joli blog post qui est très très court et qui dit juste bon bah voilà, on a changé notre licence. Mais en gros, quand en 2017 Oracle a annoncé le fait de distribuer donc la OpenJDK d'un côté et la Oracle JDK de l'autre avec deux licences différentes, les gens étaient très contents de pouvoir garder le GPL. Par contre, il y en a qui voulaient la sécurité, entre guillemets, de la version officielle Oracle, etc. Et ça les embêtait qu'il y ait cette licence Oracle. Et en fait, Oracle dit, bah, on vous a entendu, et probablement derrière que c'est une question, on pourra en discuter, mais une question d'Oracle qui s'est peut-être pas fait tant de thunes que ça sur le truc, donc tant qu'à faire, autant le libérer et trouver un autre moyen de gagner des sous. Mais donc, ils ont... L'Oracle JDK est maintenant disponible gratuitement, librement, sous une licence qui s'appelle Oracle No Fee Terms and Conditions, NFTC. Globalement, la licence, c'est le classique The programs are provided as is, non pas as is lumière, without warranty of any kind. Oracle further disclaims all warranties, express and implied. Enfin, le truc un peu classique des licences libres, voilà, genre, on est responsable de rien si vous faites des bêtises avec, hein, en majuscule, là. Sauf que, au-dessus, il y a à peu près 200 lignes de trucs classiques légaux où ils réexpliquent qu'est-ce que c'est que Oracle, qu'est-ce que c'est qu'une. Enfin, bref. Ils refont les définitions et tous ces trucs-là. Donc voilà. Donc maintenant, vous pouvez utiliser Oracle JDK de façon gratuite. Vous pouvez le modifier, le redistribuer. Vous n'avez pas le droit de modifier et de revendre l'Oracle JDK en elle-même. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous avez le droit d'utiliser Oracle JDK pour faire des produits commerciaux, c'est-à-dire développer avec et faire tourner un truc, un service ou une application que vous allez vendre. Mais par contre, vous avez le droit vous n'avez pas le droit de vendre des versions modifiées de la JDK créées à partir de cette licence.
Encore faudrait-il trouver des gens pour acheter ça, quoi.
Oui, mais bon, tu sais, y a toujours des...
Écoute, il y a un marché pour les Julian Deka, quoi.
C'est clair. En fait, ça veut dire Julien Deka, ouais.
C'est un nouveau JDK.
Cool. J'ai revérifié Java 11, c'est septembre 2018.
Ouais, c'est ça. Oh,
ça ne nous rajeunit pas, les amis. Ça ne nous rajeunit pas.
Ouais, moi, je pensais que c'était plus vieux que ça, quand même.
Bah ouais, moi aussi, j'aurais dit ça.
Mais c'est vrai que ça a été ultra rapide, toutes les versions de Java.
Ouais.
Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus. Si vous rejoignez mon analyse du fait que, de toute façon, ils n'en vendaient pas et...
Ouais, moi je suis ça de loin maintenant, mais je serais pas étonné que ce soit pour ces raisons-là.
Quand je vois tout le monde qui a passé sur OpenJDK depuis 2018, je pense qu'il y a un peu de ça forcément. Je peux me tromper.
Ok. On enchaîne avec un lien de Wiz. Du blog de Wiz qui nous parle de Azure. Alors, Je vais expliquer vite fait, mais à mon avis, je suis loin d'être le plus pertinent de l'audience sur ce sujet. Mais donc, quand vous êtes client chez Azure et que vous avez une machine, a priori, c'est plutôt sur l'offre, on va dire IaaS, je ne sais pas trop comment elle s'appelle, vous avez une machine sous Linux. Alors, l'article précise que c'est au moins 50% des utilisateurs. Je trouve ça assez... Enfin, je savais qu'ils en avaient beaucoup, mais je trouve ça toujours un peu marrant que le cloud de Microsoft ait quasiment 50% de Linux. Enfin, quand on se souvient un peu de l'époque Steve Ballmer, on en est loin. Et donc, si vous avez une machine sous Linux, chez Azure, et que vous activez certains services, alors je vais en nommer 2-3, mais Azure Automation, Azure Log Analytics, Azure Configuration Management, ce genre de choses. Quand vous les activez, ça installe un agent qui s'appelle Open Management Infrastructure, alors ça l'installe sans que vous en soyez vraiment au courant. Alors encore une fois, est-ce que vous pouvez l'être si vous avez bien tout lu les petites lignes, qui lit les petites lignes? Je vous laisserai vous faire un avis sur l'article. Et cet agent, en fait, récemment, il y a, c'est bien des équipes de Wiz hein, qui l'ont trouvé, je pense, qui ont trouvé quatre failles, notamment une faille qui permet de faire du RCE as root, donc de l'exécution de code, remote code execution à distance. En fait, la faille permet d'être root. On est quand même sur une note de... Là, j'ai l'impression d'être dans le truc où tu notes ce que font les gens à bouffer. Là, on est sur 9,8 sur 10 quand même en termes de CVE parce que, en gros, en enlevant le header authorization en discutant avec cet agent, vous pouvez être out en fait. Et le plus gros problème, c'est que forcément, vu que c'est quelque chose qui est installé sans... énormément de c'est installé automatiquement sans que vous le sachiez vraiment, ça rend les choses beaucoup plus difficiles pour que vous puissiez le mettre à jour vous-même. Et en plus, si j'ai bien compris, c'est pas forcément évident pour que Azure le mette à jour automatiquement chez tout le monde. Et donc, encore une fois, je parle énormément conditionnel. Moi, je suis monsieur front-end hein, chez Clever. Mais si j'ai bien compris, c'est aux utilisateurs d'appliquer des actions pour résoudre le problème et mettre à jour. Je n'ai pas tout suivi sur la fin de l'article.
Ouais, les gens avaient l'air assez vénères parce que, en gros, la baseline sur Twitter en ce moment, enfin, sur le sujet, c'est... Et donc, en fait, un agent qui est installé sans qu'on le sache, enfin, on est censé aller mettre à jour sur nos machines un agent qui a été installé à notre insu et qui fournit une faille de sécurité majeure. Donc, oui, c'est ça. Il y a des mises à jour à faire un peu soi-même parce que le truc ne se met pas bien à jour tout seul, je crois.
Que les mises à jour automatiques ne s'appliquent pas à cet agent-là.
Exactement, d'accord.
C'est l'accumulation de faits. Si on ne savait pas que c'était installé, même si on fait tous les mises à jour et tous les updates automatiques de la machine, ça ne va pas se mettre à jour. Et en plus, il va falloir que tout le monde aille manager ce qui est censé être en cloud pour le mettre à jour. Et en même temps, c'est une faille que je comprends bien comment on peut arriver, et je comprends bien comment dans un service manager, c'est utile d'avoir ce type d'agent juste pour fournir des services. Ouais. Donc, c'est vraiment une situation super embêtante pour tout le monde, et pour Azure, et pour les clients. Et...
Ouais. Ce que dit l'article, c'est que déjà, de base, l'agent est exécuté en tant que... Enfin, root, il a tous les privilèges. Donc, ça rend les choses beaucoup plus... risqué, j'imagine, par défaut. Et l'article à la fin, donc je vais pouvoir vous poser une question à vous trois. L'article à la fin dit, c'est important de noter que ce genre d'agent existe pas que chez Azure, existe chez AWS, GCP. Qu'en est-il de Clever Cloud ou AVH Cloud?
Je vais répondre en premier pour Clever. Vas-y, mais Canard. Pour Clever, il y en a, je sais pas, il y a... C'est entre 5 et 10 agents par VM, on va dire, qui font un peu de tout. Les trucs qui nous permettent de collecter les logs, les métriques, le monitoring, tout ce genre de choses. Mais nous, on fait de l'immutable infrastructure, du coup. Si on a un pépin, on peut tout patcher et tout redéployer, en fait.
Ouais, la différence, c'est que nos utilisateurs ne managent pas la distrib Linux sur laquelle tournent leurs applications, on la gère pour eux, et quand on veut faire une mise à jour, on détruit la VM et on redémarre leur code sur une nouvelle VM.
Ouais. Ça. Et ils ne tournent pas en route, accessoirement.
Oui.
Ils ont chacun leur user.
Vous, Horacio, vous avez une offre un peu plus proche de ça, un peu plus IaaS.
On a
vous avez
effectivement notre offre un peu plus IaaS. Et voilà, notre offre plus IaaS, il est construit sur OpenStack. Donc, on utilise plutôt OpenStack pour manager et gérer ces machines-là sans devoir installer d'Ajan. On a certains Ajan pour les métriques, pour les, pour machin, mais, bah, ce que j'ai compris quand j'ai discuté avec Noga, bah, non, c'est, ce type d'Ajan, on l'aimait pas, mais, et à nouveau, je trouve très compliqué de blâmer Azure sur ça.
Non, bah, c'est...
Parce que, carrément, quand tu offres des services qui permettent de simplifier la vie de tes utilisateurs en manageant des choses, la façon la plus simple de le faire, c'est en mettant des Ajan. Oui, on, ça serait bien qu'il y ait une procédure pour qu'il soit mis à jour automatiquement et tout ça, ça serait pas passé. Mais en tout cas, ça ne sera pas moi qui va les jeter une pierre sur ça. C'est des choses qui malheureusement arrivent et qui font apprendre et avancer tout le monde. J'imagine que dans tous les cloud providers, je suis sûr en ce qui nous concerne, mais dans le reste, il y a des gens qui ont eu quelques sueurs froides les deux dernières soirs en essayant de voir si on n'a pas quelque chose d'équivalent par hasard qui traîne dans un coin.
Non, mais là-dessus, moi, j'ai partagé l'article parce qu'en ce moment, on en parle, qu'il faut bien entendu mettre au courant tous les utilisateurs, les avertir, mais pas du tout dans l'esprit de dire ah, « c'est nul et nous, c'est mieux ». Au contraire, on est
cela
tous... voilà. Ah, nous avons un cela dit, vas-y.
Ouais, non, cela dit, j'en profite aussi pour, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans la cybersécurité, je vous invite à venir tester Clever Cloud, et quand je dis tester, Clever Cloud, pour chercher, voilà, essayer de vous sortir d'une VM, essayer de choper un maximum d'informations que vous pouvez, et faites-nous des reports, on paye pour ça. Actuellement, on a beaucoup des gens qui lancent des scripts pour voir si notre site, il y a bien, qui nous envoient des messages un peu inutiles disant « Ah, il y a tel cookie et c'est pas une super bonne pratique sur votre site WordPress. » Et je suis là, sauf que c'est pas ça qui nous intéresse côté sécu. Ouais. On a eu deux, trois fois des reports de failles de sécurité qu'on a corrigées assez rapidement. Mais voilà, en ce moment, les reports qu'on reçoit, c'est « Hey, j'ai trouvé... » sur un GitHub public, les identifiants de la DB d'un de vos clients. Et je suis là, bah, écoute, envoie un message au user GitHub, parce que c'est pas à nous de... Nous, on refile la base de données, après, les gens, s'ils décident de donner les identifiants à tout le monde, c'est leur problème, quoi. Ouais. Et ce qui n'empêche pas d'envoyer parfois un petit message à l'utilisateur pour dire, hey, il paraît que... Mais... en ce moment, on a beaucoup ça en report, et nous, ce qui nous intéresserait, c'est plutôt, voilà, avoir des gens qui, depuis une application, qui font tourner chez nous, voir s'ils arrivent à sortir, avoir un accès route, qu'est-ce qu'ils arrivent à choper comme identifiant pour aller taper sur le reste de la plateforme. S'il y a des gens qui arrivent à sortir même complètement de la machine virtuelle, ça nous intéresse beaucoup. parce que ça, c'est le pire qui pourrait arriver. Mais voilà, si vous faites dans la sécu, je vous invite à venir tester et à venir collecter des bounties si vous trouvez des choses graves qu'il faut qu'on corrige, quoi.
Cool.
Parce que c'est aussi comme ça que ça marche, quoi.
Ouais. J'allais dire, du coup, Julien, je vais te laisser enchaîner sur un autre sujet d'actu un peu sécurité.
Ouais, on parlait
en parlant de Travis.
Travis CI a fait un communiqué de un bulletin de sécurité qui date tout juste d'hier, je crois, avant-hier. Un truc comme ça, trois jours. Le 13 septembre, bon, c'était lundi. Bref. En gros, si vous avez un dépôt. Un dépôt GitHub public, GitHub ou deux trois autres trucs qui s'intègrent avec Travis. Alors pour rappel déjà, Travis CI c'est un outil donc de CI, c'est-à-dire je viens d'oublier ce que ça voulait
Continuous
dire.
Integration.
Merci. Globalement, continue. Ça lance tous vos tests, tout un tas de suites de tests pour vous et comme ça, quand il y a une pull request qui est faite sur par exemple GitHub. On peut avoir un tas de tests qui sont effectués pour avoir plus facilement confiance en la pull request.
Une demande de tirage, non,
c'est pas une ça. Demande de tirage,
j'en sais pas. Je sais pas.
Un BET. Ouais, et en fait, Travis CI a découvert, enfin il y a des gens, je ne sais plus trop qui ont découvert une faille de sécu qui fait que si vous avez, alors c'est assez précis quand même, hein, c'est pas non plus tout le monde, mais si vous avez un dépôt public GitHub qui a été forqué, au moment où la personne fait la pull request, pour peu qu'elle mette les bonnes choses dans des scripts de validation Travis, etc., il y a moyen d'afficher de façon assez rapide, mais bon, ça reste affiché quand même à un moment, les variables d'environnement du repo d'origine, qui fait le... donc pas le repo qui fait la PR, mais le repo officiel, quoi, sur lequel on veut reverser les modifs. Et du coup, dans certains cas, sur certains prints, il y a des variables d'environnement, donc parfois des secrets de CI, des secrets de base de données, de trucs de publication, qui peuvent être visibles. Donc, c'est pas ouf. Dans l'article, il rappelle que c'est bien de mettre à jour ces tokens Travis, ces tokens GitHub et autres trucs comme ça. Et de façon générale, oui, rafraîchir les tokens et autres secrets, ça peut être pas mal.
Et il rappelle aussi dans les communiqués que, à leur connaissance, c'est une pratique standard dans tous leurs autres compétiteurs. Ils jettent le pavé dans la mare, ce qui est très bien.
Oui, c'est complètement.
Justement, quand, dans les processus de builder in pull request, bah, ils ont besoin pour pouvoir la builder d'accéder à ces variables. Donc, potentiellement, le problème est plus grand et plus étendu.
Ouais. Complètement. Et donc, ça a été corrigé le 3 septembre. Donc, en fait, le communiqué à 3 jours date de lundi, mais la faille a été corrigée, en fait, il y a 2 semaines déjà. Donc, voilà, mettez à jour, on ne sait jamais, vos différents tokens sur GitHub.
Parce
qu'ils pourraient avoir
fuité.
Je dis, pardon, pour peu que tu utilises les mêmes environnements de build et de release, tu peux tout récupérer les secrets pour publier une nouvelle version d'un soft.
Potentiellement, l'impact est énorme, oui, carrément.
Ouais. Là, ça craint.
On enchaîne toujours un peu avec la sécurité, les tuyaux sécurisés, les gardiens des câbles, en parlant de WireGuard. C'est un lien de Alexandre Duval.
Ouais, bah, donc WireGuard a été intégré au kernel Linux nativement depuis la 5.10, si je me trompe pas. Et Free.
Tu peux préciser juste vite fait ce que c'est WireGuard?
WireGuard, bah, c'est un VPN, enfin, un outil qui permet de créer des VPN et de se connecter dessus. Et donc, simplement, rapidement, facilement. C'est surtout son gros avantage.
Utiliser WireGuard. Pour info, NordVPN utilise WireGuard maintenant. Je ne sais pas si c'est un gage de qualité. Mais la plupart des technos de VPN se sont mises à utiser WireGuard.
Cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN.
Merci. Et en fait, ouais, c'est ultra simple parce que WireGuard, pour les gens qui ont déjà fait de l'IPsec ou de l'OpenVPN, il y a tout un moment de négociation du protocole de chiffrement et de tous ces trucs-là. Et WireGuard, le Jason là, qui l'a créé, a décidé qu'il allait prendre une méthode de chiffrement, une méthode de signature, une méthode de... Enfin, un algorithme pour chaque truc, en prenant en gros le meilleur algorithme du moment en termes de rapidité, slash sécurité, etc. Et du coup, t'as pas d'autre choix que d'utiliser ça, donc la conf, elle est très 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 rapide, quoi.
Et du coup, Free l'a intégré en bêta dans Freebox OS dans les dernières versions. Et du coup, on peut configurer un WireGuard, enfin se connecter à un WireGuard, connecter sa Freebox à un WireGuard, et du coup avoir tout son réseau particulier qui est routé en VPN.
Ouais, et donc ça veut dire que si je configure ma Freebox pour créer un tunnel vers un autre nœud qui est ailleurs sur Internet,
oui.
Tous les gens qui sont sur mon Wi-Fi ou autre passent par ce tunnel sécurisé.
Ouais. Bon, ça existait déjà pour OpenVPN ou ce genre de choses, mais là c'est juste que, en gros, j'ai remonté un peu toute l'histoire de ce truc-là, et en gros c'était des demandes d'utilisateurs free depuis 2018,
ouais.
Je crois, et puis en gros, bah, comme c'est c'était release officiellement dans le kernel. Free l'a intégré beaucoup plus simplement. Et voilà. Bon, du coup, comme c'est une Freebox, enfin, comme c'est une box, il n'y a pas un très gros CPU. Et du coup, il y a un peu de latence, quoi. 10-15 millisecondes en plus en moyenne sur le trafic de latence, le temps de déchiffrer et chiffrer les paquets.
Ok.
Voilà, voilà.
Ok. On va enchaîner avec ce que j'ai appelé dans les notes un palien de déménagement de Alexandre Duval. Alexandre, t'as déménagé récemment et on n'en dira pas plus. Tu fais ce que tu veux dans ta vie privée. Mais ça t'a fait remarquer deux, trois petits trucs dont tu vas nous partager les détails.
Il y a un petit détail en mode je râle, et puis un autre détail. Ah non, c'est plus loin que tu l'évoques.
Oui, c'est plus tard après.
Ah bah pardon. On va parler du coup, le mode râlage, c'est pas si ça dit. Mais en gros, donc j'ai changé de FAI, et pour configurer des HV, chez Clever, des serveurs, du coup, dans notre data center, on passe par des VPN en PPTP. Et donc derrière c'est de l'IPsec et chez certains FAI les paquets IPsec sont une priorité plus basse et ça fait que des fois ça arrive pas à temps pour le serveur et du coup on se fait jeter par le serveur et en gros j'ai une moyenne de 30 secondes par connexion. Du coup c'est très très peu pratique. Alors que si je repasse en 4G chez mon autre opérateur ça marche très bien. Voilà.
Ouais. Donc ça, c'est ton petit râlage du moment sur ton FAI.
Et le premier est plus cher que l'autre.
ils sont écrits dans mes notes, mais on va dire qu'on ne va pas les noter. Et donc, du coup, tu gardes sur ta 4G pour que ça...
Bah, ça juste pour faire ça, hein, c'est, ouais. ça arrive pas souvent, hein, mais ouais. C'était pénible.
Ok. Julie, tu voulais dire un truc sur IPsec et la priorité des paquets. Pour moi, tu es un peu l'homme qui murmurait à l'oreille des VPN chez Clever, du coup.
Oui.
Non, rien de plus, à part que effectivement, on a parfois des problèmes comme ça, justement de clients pour qui on installe un IPsec ou un truc comme ça pour certains de leurs services et qui ont des problèmes justement parce qu'ils sont chez eux. un certain provider, pardon. Enfin voilà, et du coup, ça leur pose des problèmes et ils viennent nous voir en mode ah, ça marche pas. Et je suis là, bah si, chez moi ça marche. Ouais. Trademark, copyright. et en fait, non, c'est juste leur provider qui ralentit ces paquets-là. Je sais pas trop quelle est l'utilité de faire ça. Je sais pas si c'est parce qu'ils vendent un service concurrent derrière.
La légende urbaine dirait que certains opérateurs voulaient pousser les gens qui travaillent avec leur Internet à prendre un abonnement pro. Et donc, ils sont associés historiquement à travailler avec ton Internet à utiliser un VPN. Je pense que la pandémie a changé la donne pour tout le monde, mais ils n'ont pas dû revoir ces politiques-là.
Hashtag neutralité du net.
Hashtag.
Ouais. Ok. Autre chose là-dessus, messieurs ? Non. Nous allons enchaîner avec un lien de Alexandre Duval, toujours, qui va nous parler de Zoom et de Facebook et de la VR.
Ouais, donc Zoom a explosé du coup avec la pandémie, hein, c'est devenu une énorme boîte. Et du coup, là, il s'associe à Facebook et à l'Oculus Quest 2. Pour proposer a priori vers fin 2022 des réunions en VR. Et du coup, on pourrait imaginer une réunion un peu en mode conseil des Jedi, là qui est sur une autre planète, en hologramme et tout. Ça pourrait être super stylé. Bon, forcément, ça fait un petit coup, quoi, parce que Oculus Quest 2, à mon avis, c'est pas
ça coûte combien à peu près?
J'en ai aucune idée, mais je vais regarder tout de suite. Je pense qu'on est entre au moins 500 et 1000 euros, un peu comme ça. Ah non! Ben, 350. Ouais. Voilà. Bon, c'est un budget. C'est une belle note de frais pour faire des réunions. Et je pense que ça peut être très très sympa et très très stylé. Et je n'ai rien à dire de plus dessus.
Vous voyez, vous faire des... Enfin, je sais pas. Bon, on a tous goûté au niveau ultime de la visioconférence depuis la pandémie. Vous voyez faire des réunions comme ça avec des cases de VR
Oh, moi, pas du tout.
Pas du tout.
Faut mais je pense que... Vas-y.
Moi, pardon, je le vois pas dans un milieu professionnel, en fait. Plus de familial, tout ça, tu sais, genre, tu fais un apéro, machin, t'es en mode à moitié autour de la table et tout, ça peut être sympa. Mais pro, ouais, c'est un peu plus intime, mais peut-être pas... Je sais pas.
Plus gadget, peut-être, ouais.
Ouais.
Mais moi, je me dis que dans 10 ans, on sera les boomers qui refusent d'utiliser ce truc-là. et que tous les gamins tourneront sur ce genre de truc parce que le prix aura été divisé par 5 et que... Il y en aura un dans chaque famille, tu vois, ce genre de choses, et tous les gamins utiliseront ça, et nous, on sera genre... on comprend pas.
Il n'y a pas ça dans Retour vers le futur 2 ? Genre, je me demande si c'est pas la fille de Marty, bon, qui est aussi jouée par Michael J. Fox, et qui a un casque comme ça à un moment, qui passe un coup de fil, je sais plus.
Ça me parle.
Moi, ça me rappelle Wally. Mais c'est
oui,
moi, hein.
C'est vrai. Je tiens juste à préciser parce que dès que j'ai une discussion avec des gens autour de la VR, etc., on parle peut-être pas assez souvent du fait que c'est pas accessible à pas mal de gens. Que ce soit parce que t'as moins de, je sais plus, 5 sur 10 ou un des deux yeux, voire les deux, hein, bien sûr, mais en tout cas, déjà, dès que t'as. Un de tes deux yeux qui a une déficience visuelle, ça devient gadget ou enfin tu vois rien. Je sais pas trop ce que ça donne, mais ça marche pas très bien.
Avec des lunettes, l'expérience est sous-optimale.
Voilà. Dès que t'as des lunettes, et puis après, moi je suis sujet aux migraines. Le peu que j'ai essayé de la VR, ça, enfin je sais même pas si c'est lié, mais en tout cas ça me donne vite mal au crâne. Donc je sais pas. Je serais pas étonné, comme tu le dis, Julien, qu'on devienne les boomers qui refusent d'utiliser ça. Mais je me demande à quel point ça peut se démocratiser de par la capacité visuelle de chacun, quoi.
Après, moi, ça me rappelle quand la 3D est arrivée au cinéma. Oui. Et j'étais plus jeune, donc je n'étais pas boomer à l'époque, même si maintenant je commence. Mais moi, j'ai jamais eu un vrai confort à cause des lunettes sur main, et j'ai plein de potes qui sont dans les mêmes cas. Donc, moi, ce côté non accessible, pour moi, ça peut être rapidement un frein. Si moins de la moitié de ta cible n'est pas confortable dans cet environnement, et le peu que j'ai vu de réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est encore pire que les lunettes 3D pour le cinéma. Ça peut se populariser, mais je le vois difficilement se généraliser de ce fait-là. Si le téléphone portable était pas utilisable par la moitié de la population, ça serait pas la révolution que ça a été. Rien n'est parfaitement accessible, mais cette techno-là, elle est particulièrement peu accessible à une frange très large de la population.
Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que le lien avec la 3D au cinéma... Puis on va pas se mentir, enfin je sais pas vous, moi la dernière fois que j'ai vu un film en 3D, ça commence à dater. Et d'un, parce qu'il y en a plus beaucoup, et deux, parce que j'ai fini par préférer regarder ça en 2D, mais peut-être que Avatar 2 va tout révolutionner.
Avatar, c'est les petits enfants avec une flèche sur la tête.
Non. Enfin aussi, mais non, je parlais de... Ouais. Je parlais
de ces schtroumpfs de l'espace, même désolé.
Ouais, du remake de Pocahontas avec des schtroumpfs géants. Bref, on va enchaîner avec un lien qui parle de JavaScript, parce que bah, quand je suis dans le podcast, on parle de JavaScript pour changer. Alors, pour rappel, le JavaScript est standardisé par un organisme qui s'appelle ECMA, et le langage est géré par le TC39, le Technical Committee 39. Donc dans ce groupe il y a pas mal, enfin pas mal, c'est un groupe de personnes qui discutent des futurs standards qui arrivent dans JavaScript, et en ce moment il y a des discussions autour d'un opérateur dit l'opérateur pipeline. Donc attention, c'est pas radiophonique, c'est un pipe et un signe supérieur A, donc un chevron vers la droite. Bref, et l'idée de cet opérateur est de pouvoir prendre une variable, un objet, une string, etc. Et ensuite, de le faire passer au travers de différentes fonctions. Et donc, via cet opérateur, et en général en mettant un opérateur par ligne. Encore une fois, c'est pas super radiophonique, je vous laisserai voir le lien de... Donc c'est un lien d'un article de Ben Lesch, qui est le créateur, ou en tout cas, ouais, je dirais créateur, mais en tout cas le mainteneur de RxJS, qui est forcément une librairie qui se base beaucoup sur le fait de faire passer des variables et des des variables qu'il y a dans des observables au travers de différentes transformations, des maps, des filters, et plein d'opérateurs de tout ce qui est lié aux observables. Et en fait, donc, sur cette idée de dire on va rajouter cet opérateur pipeline dans JavaScript, il y a deux camps. Il y a eu essentiellement deux propositions. Un système qui ressemble énormément au langage Hack. Donc moi, j'avais oublié ce que c'était, mais si j'ai bien compris, c'est le fork de PHP de Facebook, HackLang. Et donc, il y a une proposition de pipeline qui ressemble à ça, et une autre qui ressemble un peu plus à ce que fait le langage F-Sharp, notamment. C'est la guerre, quoi. non, mais c'est mieux le truc de Hack, c'est mieux le truc de F-Sharp. Donc, allez voir l'article. Ben est très pro F-Sharp parce que dans RxJS, ça aurait plus de sens. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que dans l'article, il a mis des exemples et il a mis le maximum de pros and cons, d'avantages inconvénients pour les deux possibilités. Il se trouve qu'a priori, on se dirige vers la version qui ressemble au langage Hack et à son grand désespoir. Donc c'est aussi pour ça qu'il a écrit l'article, pour essayer de une énième fois d'avoir des gens qui puissent se mobiliser et convaincre le comité de discussion de changer d'avis. Ça a aussi généré des petits dramas sur Twitter parce que OTC39, pour en faire partie, il faut payer. Et c'est pas le coût d'un abonnement Netflix, hein, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour faire partie du comité. Donc bon, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais du coup, on peut pas donner notre avis. » Alors c'est loin d'être aussi simple, hein, parce que les gens qui font partie de ce comité écoutent un maximum, le plus possible, la communauté, les gens qui font des frameworks, les gens qui font des navigateurs, les gens qui font des... Mais donc, on se dirige vers la version de Hack. Donc, je ne vais pas décrire plus en détail les différences et comment ça fonctionne. Je vous incite vraiment à aller voir l'article. Et à défaut, ça vous fera découvrir la version Hack qui arrivera peut-être un jour dans le langage. Moi, j'avoue, la version F-Sharp me plaît plus. Et il y a Horacio qui vous montre à quoi ça ressemble sur son téléphone, si vous avez la vidéo.
Non, ça n'est pas, c'est pas assez bien, c'est pas voilà. Assez net.
Je sais pas, est-ce que vous avez vu l'article, vu passer les discussions, vous Horacio, t'es peut-être
oui,
plus JavaScript.
Oui, j'avais vu l'article, j'avais vu passer les discussions. Ouais. Je vois l'utilité de l'opérateur. Je ne me prononce pas sur lequel des deux versions je préfère. Je trouve qu'effectivement, il y a une utilité, surtout que ça vient des créateurs de ReactiveJS, ça me semble full logique parce que voilà, l'idée, tu as créé un pipeline et commencé à tiens, la sortie et la passe à la fonction suivante sans devoir faire à chaque fois passer par des variables intermédiaires. Ouais. C'est des sucres syntactiques, mais des sucres syntactiques qui apportent quelque chose.
Carrément.
Après, en allant sur le fond de l'histoire, oui, c'est vrai que les 1339, il y a plein de membres qui sont très à l'écoute des communautés. Par contre, je comprends aussi cette idée-là de oui, mais ça reste quand même une façon de faire que pour beaucoup de développeurs web reste lointain, reste, ils font entre plein de guillemets ce qu'ils veulent et ouais. Après c'est à nous d'assumer ce qu'ils ont décidé. Donc il y a un enjeu là et je comprends que pour beaucoup simplement dire oui mais on est à l'écoute des communautés donc même si vous ne payez pas les TC39 vous avez quand même votre mot à dire, ça peut sembler assez flou et pas tout à fait clair pour beaucoup de monde. Ouais.
Moi, j'aimerais bien avoir les deux variantes.
Tu nous fais un why can't we have both, le gif avec
non,
la
mais
petite,
j'ai un peu d'expérience en ce cas-là, et en fait, en ce cas-là, il y a les deux. C'est-à-dire que donc, pour... Il y a une variante où, en gros, tu remplaces ta variable qui a été pipée par un accent circonflexe et une variante où tu dois tout expliciter en passant vraiment des fonctions où tu nommes ta variable. C'est bien ça, on est d'accord?
C'est un peu la grosse différence entre les deux approches.
C'est ça.
Et en fait, en ce cas-là, il y a les deux. C'est-à-dire que tu peux... Alors, c'est underscore et non pas accent circonflexe. Mais tu peux utiliser directement avec une fonction... Enfin, tu peux balancer directement un appel de fonction avec le underscore, en l'occurrence... qui est passé, et si tu en as plusieurs, bah, ça considère qu'il y a plusieurs paramètres. Mais effectivement, il y a cette approche-là a un problème qui est bien levé dans l'article, que si par exemple tu veux réutiliser la même variable à plusieurs endroits, admettons que le x que tu récupères, tu as besoin d'appeler la fonction avec x plus 1 et x plus 2, quelle que soit ta raison. Hein. Mais tu ne pourras pas le faire avec la version hack.
Circonflexe.
Accent circonflexe. Alors que, au moins, c'est plus clair quand tu le fais avec la version
F-sharp.
Moi, ce que tu expliques, ça me rappelle la proposition qu'il fait en fin d'article quand il dit « Mais on pourrait avoir presque les meilleurs des deux mondes. Ouais. » Donc, ça serait, je trouve, un bon compromis.
En tout cas, vas-y.
Tu gagnais du temps sur l'écriture parfois quand c'est un truc vraiment straightforward, c'est cool, tu vois, de pouvoir, parce que moins de code, c'est potentiellement moins de bugs entre guillemets, mais surtout c'est plus facile à lire parfois et voilà, à relire. Et par contre, oui, dès que tu veux faire des choses plus complexes, avoir une possibilité d'expliciter ce que tu fais tout en ayant tout en gardant l'opérateur sympa là. Enfin, l'opérateur pipeline qui peut être cool. Ça peut être bien effectivement d'avoir les.
Moi, j'étais développeur Java pendant 20 ans, donc le côté explicite, oui, c'est rébarbatif, oui, tout ce que tu voudras, mais l'expérience de vieux cons m'a montré que tu fais les choses explicites en général, ça élimine les bugs. Moi, c'est le truc-là de moins tu écris des codes, moins tu fais des bugs. Je n'étais jamais vraiment trop fan, mais je comprends ce que tu dis.
Et j'allais juste terminer. Je crois que la proposition est en stage. Non, je ne vais pas le dire parce que j'ai un doute, on va vérifier après. Mais en tout cas, on s'oriente très clairement vers la solution
stage
hack.
2, non ?
Je dirais stage 2, ouais.
Stage 2.
Il y a encore largement moyen que ça change. Hein. J'ai envie de dire, les décorateurs, c'est en stage 2 depuis, depuis facilement 5-6 ans. Donc, on va voir. Par contre, sur le circonflexe, il y a discussion. Il y a eu des versions précédentes avec un pourcent. Puis forcément, là, il y a sondage de « Ok, ça ressemble à quoi les claviers dans vos pays ?» Parce que, bon, forcément, on n'a pas tous le circonflexe au même endroit. Et est-ce que c'est facile à taper ? Enfin, bon, c'est toujours le problème.
Ouais, je me demande quand est-ce qu'ils vont commencer à ajouter des emojis comme opérateurs.
En vrai, ce serait limite plus,
emoji flèche.
Plus marrant, quoi.
Au moins, ça serait clair, quoi.
Ok, on va enchaîner avec un peu de WASM, de WebAssembly, avec un lien de Alexandre Duval.
On va enchaîner avec beaucoup de WebAssembly.
Oui, c'est parti pour le tunnel au WebAssembly.
On vous expliquera pourquoi.
Je cherchais un moyen de faire des PDF rapidement, et si ça pouvait éviter de passer par un serveur, ça m'arrangeait beaucoup. Et du coup, j'ai trouvé WASM PDF, donc qui est basé sur Rust PDF. Et du coup, c'est la version WebAssembly de Rust PDF, qui permet de générer des WASM des PDF, pardon, avec du coup cette outil directement dans le navigateur du client qui veut générer le PDF. Et donc en fait, c'est super facile à installer, c'est super rapide à exécuter. Par contre, il faut générer un JSON qui peut être plus ou moins long à générer selon ce qu'on veut mettre dans le PDF. et on lui balance tout ça et puis il nous sort le PDF. C'est très rapide. Voilà, voilà. C'est tout.
Et t'as généré quoi avec ?
Des factures.
Ah, c'est marrant, j'ai l'impression que
une génération
on est sur un sujet là, Julien.
Il y a des plusieurs choses. Ouais.
Mais du coup, t'as la main vraiment pour faire ta mise en page et autres. Enfin,
ouais, c'est vachement. C'est pas de l'HTML.
Ouais.
Il y a des trucs qui ressemblent un peu à du CSS vite fait, mais il y a juste un petit truc, c'est sur des trucs genre du texte stationnaire, tu sais, qui reste en haut ou en bas de page.
Ouais.
C'est un peu pénible, ou faut qu'il génère le PDF pour que ça coupe bien certains tableaux quand tu veux générer tes pages PDF, quoi, que ça coupe au bon endroit, ce genre de choses. Mais sinon, c'est très 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 rapide comparé au truc que j'avais avant, où c'était du XHTML, CSS1.
Tu utilisais quoi avant?
Je sais même pas comment ça s'appelle, un truc que tu veux pas savoir. je sais même pas comment ça s'appelle.
Toi, Julien, pour les factures de Clever, tu utilises quoi?
Alors moi, j'utilise un moteur de rendu spécifique, enfin, un moteur de rendu PDF de HTML, CSS, voilà, qui implémente... attends, comment il s'appelle?
Ah mince, je te prends...
WYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYSIWYS
c'est écrit en Python. Et ça prend ton HTML, ça prend ton CSS et ça te génère un PDF. Et là où c'est vraiment pas mal, c'est que ça supporte... Donc en fait, c'est vraiment un moteur de rendu qui a été écrit en Python. C'est pas comme tout ce qui est WKHTML tout PDF, s'il y en a qui connaissent, ou Chromium Headless, qui simule un navigateur qui imprime en... qui imprime en PDF. Là, c'est vraiment un moteur de rendu spécifique à ton... Comment ça s'appelle Enfin, spécifique pour justement le print. Et en fait, dans CSS3, il y a une spec qui s'appelle la page spec quelque chose, qui permet justement de définir des choses, alors, par exemple des en-têtes, des pieds de page, des choses dans les marges, et tout un tas de trucs qu'il faut répéter sur une seule page ou sur plusieurs. Tous ces trucs-là. Et du coup, tu peux assez facilement... tu fais assez facilement ton HTML, ton CSS, et c'est vraiment bien, parce que, par exemple, Chromium Headless, donc truc qui simule un navigateur, va par défaut, et c'est extrêmement galère de changer ce défaut. Rajouter le numéro de la page en bas et le nom de la page. C'est quand vous faites print, il y a toujours l'URL là, qui est affichée en haut du PDF quand vous faites imprimer une page dans votre navigateur. Et là, le moteur de rendu, justement, ne va pas faire ça, en fait. C'est un moteur de rendu qui est fait exprès pour ce genre de choses. Et du coup, c'est assez simple à utiliser, quoi. Donc voilà, moi j'en suis très content. Après, on a toujours les problématiques de si ta stack Python est un peu pété ou si au moment où tu veux... C'est ça, au moment où si PyPy ou je ne sais pas quoi est down, au moment où tu veux déployer ton application, elle ne déploie pas. Parce que encore une...
J'attendais
encore une dépendance Python à un serveur externe qu'on ne peut pas trop contrôler, quoi. Ouais. Mais voilà. Moi, j'aime beaucoup.
Et du coup, tu fais des factures en noir et en gold ou pas?
Et grâce à ça, oui, je peux facilement faire des factures en fond noir pour les clients premium.
Ceci était un petit easter egg du mois d'avril, si je me souviens. Ok, on va enchaîner avec un autre lien Wasm. Ce coup-ci, c'est un lien de Horacio.
Oui, parce que... Instant autopromotion, moi, les liens web, je les réserve pour notre émission avec la rendez-vous des speakers, les briques de web.
Oui.
D'ailleurs, si vous êtes intéressé dans le web, vous pouvez nous écouter tous les deux semaines. Et là, je me suis dit, on va attaquer un autre sujet, un autre de métadata, les WebAssembly. Et surtout que cette semaine, j'avais vu trois ou quatre petits liens qui m'ont beaucoup impressionné. Le premier, c'est WASM 4. Je sais, il y a plein de projets qui s'appellent WASM 1, 2, 3, 4, et WASM 3, c'est un moteur qui permet d'exécuter des WASM sur des devices très différents, d'un Arduino jusqu'à un PC, en passant par un Android ou un iPhone. Mais WASM 4, c'est pas de tout ça. WASM 4, c'est une petite console virtuelle écrite en WebAssembly sur laquelle vous pouvez programmer vos propres jeux. Et il y a les projets où il y a la console virtuelle et il y a tous les tutoriels pour créer vos propres jeux. Et si vous allez sur le site, qui ça sera dans les liens, il y a aussi plein de jeux que vous pouvez jouer. Et ça, un feeling de rétro gaming à la Game Boy. En fait, quand je l'ai découvert, j'ai passé une demi-heure à jouer aux différents jeux et je me suis arrêté parce que j'avais du travail à finir, mais c'est super mignon comme petit projet. C'est super intéressant pour apprendre à coder de rétro gaming, D, à faire des WebAssembly et 3, à découvrir les possibilités. Et moi, j'ai rêvé que ce projet-là commence à travailler avec un autre WASM-X, avec WASM 3, parce que imaginez cette console virtuelle tourner sur un petit Raspberry Pi avec un petit écran incorporé. J'imagine déjà une rétro console, mais avec des techno WebAssembly, ça pourrait être carrément sympa. Et vous pouvez faire vos jeux en Rust, si c'est ça que vous préférez, ou en Assembly Script, ou en n'importe quel langage qu'on arrive à compiler vers de WebAssembly.
J'allais dire WASM 4, là, le lien que tu partages. Donc, c'est en utilisant WebAssembly, mais du coup, tu utilises quel langage pour compiler vers WebAssembly ce que tu veux ?
Oui. A priori, il y a des exemples en plein de langages différents.
Ah, d'accord. OK. Cool.
Donc, c'est carrément sympa comme approche. Et voilà. Et moi, le côté rétro gaming, ça me met tout de suite des étoiles dans les yeux. C'est le facteur nostalgie, je pense, quoi.
Ça, c'est ton côté... comment on appelle la génération ? Parce qu'on a dit boomer plusieurs fois, mais non, nous, on est la génération d'après.
Génération X.
Ouais, voilà, c'est ton côté génération X de j'ai vraiment connu la Game Boy et pas celle qui était en couleur avec Pokémon, machin.
Celle qui était une brique qui bouffait des piles comme si il n'y avait pas les lendemain, quoi. Celle-là, si.
Avec la loupe à lumière et tout.
Bah ouais.
J'avais une question.
Ouais. J'ai peut-être loupé un petit bout. Pour les gens qui ont la vidéo, vous verrez que je me suis absenté 30 secondes. C'est quoi la différence entre WASM 4 et WASM 3 en fait, je ne connais pas du tout cet écosystème. C'est des projets qui s'appellent...
C'est des noms qui ont quelque chose à voir. WASM 3, c'est un moteur d'une machine virtuelle WebAssembly, une WebAssembly VM, mais qui est particulier parce que ça tourne un peu partout. Tu peux la faire tourner sur des tout petits microcontrôleurs même. Ou un Arduino, ou un Raspberry Pi, ou ton ordinateur, ou ton smartphone. Et là, c'est un projet complètement à part. C'est un problème pour créer une console virtuelle et des jeux qui tournent en WebAssembly. Et donc, c'est pour ça que je disais, j'adorerais que WASM 4 et WASM 3 s'associent pour faire la rétro-console ultime. Mais bon, ça, c'est mon rêve à moi. C'est des projets qui, a priori, ils n'ont rien à voir. Aussi, lien, je ne l'ai pas trouvé quand j'ai regardé. Ouais.
Du coup, on va enchaîner avec un autre lien WASM, un autre lien de Horatio.
Ouais, comme je disais, je me suis mis à fond sur les WASM en regardant des jeux sur WASM parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel c'est une bonne preuve de concept pour WebAssembly. Je suis tombé sur une librairie que j'avais déjà vue qui s'appelle Spasm. Et cette librairie-là, elle est pour le langage D. Je ne suis pas du tout un pro de D. C'est un langage que j'ai trouvé rigolo de regarder. Mais ce qui m'a plu de cette bibliothèque, c'est que c'est un environnement tout en un pour créer des SPA, des Single Page Application. En gros, pour créer des applications web, mais complètement à part des côtés HTML, CSS et JavaScript. Et donc, tu écris ce que tu veux en langage D et tu utilises ces bibliothèques pour générer à la fin et les petits squelettes HTML, JavaScript, tout ce qui va bien pour faire tourner ton WebAssembly. Il y a plein d'exemples. J'ai donné le lien de Spam sur Spasm, mais un que j'ai trouvé très sympa, c'est un petit jeu qui s'appelle Underrun. Et quand je dis petit, c'est quoi que une trentaine de cas à peine, mais tu as un petit jeu très sympa avec un labyrinthe fait de façon autogénérée. Et c'est pour moi une preuve de concept d'intendance que je vois de fond de plus en plus sur plein de langages. C'est de construire des bibliothèques qui sont un kit complet pour produire derrière quelque chose qui peut s'exécuter sur la plateforme web. Yeah. Parce que beaucoup de WebAssembly au début, c'était tu compiles ton truc, tu as des WebAssembly, ensuite tu vas prendre des JavaScript, instancier ton WebAssembly, les filer les paramètres, ensuite tu vas prendre HTML, appeler ton JavaScript et mettre ça sur un Canva. Et le processus était relativement complexe.
Ouais,
maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui s'amplifient énormément ces pipelines.
Mais c'est quoi le langage D? J'en ai entendu parler, hein, mais ça vient. Vous savez d'où ça vient? Qui... T'en as déjà fait, toi, Horatio?
J'ai joué avec. Non, j'ose pas dire j'ai fait. J'ai ouais. joué avec. Mais non, c'est. Et je ne sais pas pourquoi ils sont misés à fond sur WebAssembly, mais les trucs, je les trouvais rigolos. Donc, j'ai testé quelques exemples, j'ai regardé les codes, j'ai joué un petit peu, mais je ne peux pas te donner beaucoup plus d'informations.
Okay,
c'est alors, un peu le côté lanceur de paillettes. Je vois les trucs, je les teste, je les modifie, c'est super. Mais je ne suis pas allé à fond pour devenir un vrai connaisseur des langages en soi. Pour le moment, peut-être un jour.
Julien, Alexandre, vous connaissez un peu ou...
Je crois qu'on en a parlé à la... J'en ai parlé à la fac. Enfin, on a vaguement vu ça quand j'étais à la fac il y a 12 ans. Mais je confonds peut-être parce que les langages dont le nom, c'est juste une lettre.
Il y en a plein, quoi. Et bientôt, ouais, voilà. On arrivera au Z.
Bon, alors, du coup, on va faire Massy, le podcast qui vous lit une page Wikipédia. Le langage D est un langage de programmation impératif, orienté objet et multiparadigme, conçu pour la programmation système. Donc, il s'inspire de C++, Java. Il partage la notion de ramasse-miettes. Garbage Collector. Ça existe depuis 2001, au moins. Et ça a été créé par Walter Bright. Bon, après, on ne va pas vous lire toute la page Wikipédia, mais ça vous donne vite fait un avis.
Je peux ajouter mon avis en humble amateur, quand j'ai joué avec, ça me rappelait tellement à plein d'autres langages que j'ai fait ouais, que je ne l'ai pas trouvé compliqué. J'avais la même impression que quand j'avais commencé à faire des Dart. Ah, ça c'est comme JavaScript. Ah, ça c'est comme Java. Ah, ça c'est comme c'est... Bon, bah, plus ou moins, au bout d'une heure, j'arrivais à faire des petits trucs. Ce n'est pas une façon recommandée d'apprendre un langage, ou peut-être oui, mais en tout cas, j'ai trouvé ça rigolo.
Ouais, bah, si tu arrives à connaître un truc, c'est le principal, je pense. Ok, on va passer à un dernier lien sur Wasm. Toujours un lien de Horatio. Mais là, tu vas nous parler de Disney+.
C'est quoi le rapport ? Disney+. Parce que pourquoi Disney+ et Wasm ? Parce que Disney+, l'idée qu'ils avaient, c'était réussir à que sur tous les différents types de devices, on parlait tout à l'heure des Freebox et compagnie, sont sur les 7 TV et tout ça, il y a des applications Disney+, le plus rapidement possible. Et pour ça, ils voulaient fournir un Disney+ Application Kit, un DAK ou un DDK Disney+ Developer Kit. Et donc, l'idée, c'était comment on va fournir ça et que la plupart des devices qui se tournent sur des matos très différents, et comment on va mettre ça dans les mains d'un maximum de gens au plus vite. Ils ont dit, tiens, qu'est-ce qu'ils ont en commun aujourd'hui, tous les devices, ou presque tous, ils sont des navigateurs.
Ouais.
Donc, pour construire des applications, le truc le plus simple, ça serait fournir un kit. Par contre, nous, ce qu'on fait dans l'application, bah, c'est trop compliqué. Lélian l'explique beaucoup mieux que moi. Hein. C'est trop compliqué pour le faire en JavaScript, mais si on fait toute la partie nécessaire en Wasm et on le donne dans ça, et on fait un developer kit autour de ça, bah, les développeurs Freebox, Orangebox, Weebox vont pouvoir prendre ça et construire rapidement autour l'appli Disney Plus natif dans la box. Et c'est un peu cette idée-là. Et ça montre bah, une autre des utilisations de Wasm, et ce qui pour moi, encore plus que les autres jeux que j'ai parlé, c'est l'esprit de WebAssembly. C'est de mettre facilement dans l'environnement web des choses que étaient difficiles à faire en JavaScript. Et ça va dans le sens que pour moi, le web reste et sera la vraie plateforme universelle. Parce que c'est le seul outil que tu as depuis les plus petits devices connectés jusqu'à l'ordinateur et plus haut de gamme, quoi.
Mais alors moi, j'ai juste parcouru le lien. C'est... Moi, je, dans ma tête, c'est dès qu'il y a une application Disney Plus qui existe quelque part, elle a forcément été faite par Disney. Là, tu es en train de dire que sur certaines plateformes un peu moins répandues, peut-être des OS très propriétaires de certaines téléconnectées, c'est plus genre Panasonic qui va faire l'appli Disney Plus.
C'est plus un travail conjoint sur certaines.
De partenariat, c'est... ouais.
Ouais. Et c'est pas forcément. C'est pas forcément aussi simple que ça. Disney Plus, il va faire le travail pour la plupart des grosses plateformes là où ils ont un énorme intérêt.
Ouais, sur une Android TV ou une box.
Android, il y a l'application qui offre ouais. Disney, iOS. Sur d'autres, bah, il y a forcément des partenaires, ce qu'ils appellent des applications clients.
Ouais.
Et que c'est chez les partenaires. Et là, bah, ça a un intérêt. Mm. Carrément de simplifier ce développement. Et même dans les cas où c'est eux qui font une bonne partie, bah, à partir d'un truc qui est web ready, ça élimine juste le besoin de connaître la façon de, éventuellement Panasonic par exemple, de faire des apps qui sont, non, bah, plateforme web, il y a un peu partout, on peut faire des trucs rapidement. Ouais. Et pour moi, c'est ça, c'est à nouveau. Ce lien-là, ça me rappelle pourquoi je trouve WebAssembly aussi intéressant, quoi.
C'est marrant parce que ça me rappelle quand tu dis qu'il y a il y a tout le temps un navigateur. Ça me rappelle quand j'ai un peu compris pourquoi il y avait un navigateur dans une télé ou une Switch, par exemple. C'est que typiquement, quand tu as besoin de te connecter à un Wi-Fi qui a un portail captif dans un hôtel, dans un.
Bah, par exemple.
Bah, tu vas devoir avoir une page web dans laquelle tu vas remplir un login mot de passe. Et donc, tu as des gens qui hackent ce genre de choses pour utiliser le navigateur de la Switch ou de. À une époque de la Wii ou je ne sais plus quelle console.
De Kindle, par exemple.
Ouais,
c'était
aussi.
C'était très
ouais.
drôle. Le Kindle a un vrai navigateur sur que la base était pensée pour les Wi-Fi et pour les stores Amazon. Mais voilà, en plus, c'est un navigateur super drôle de ce côté-là d'être fait avec de l'encre électronique. Quoi.
C'est clair. On va terminer l'arc narratif de les paliens du déménagement d'Alexandre. Avec un lien servicepublic.fr, Alexandre.
Ouais, c'est les changements d'adresse. En gros, moi, je ne savais pas que ça existait, mais du coup, j'ai découvert depuis du podcast que vous connaissiez déjà. Mais en gros, bah, c'est juste un service public qui permet de faire son changement d'adresse pour plein de services différents, donc les impôts, la CPM, la MSA, EDF, les cartes grises, tout ça. C'est gratuitement et ça marche très bien et ça prend... On se connecte avec France Connect, ça prend, je sais pas, 10 minutes en fonction de ce qu'on a, même pas, quoi. Et du coup, on n'a rien d'autre à faire. Et c'est génial. C'est la digitalisation de...
Vous l'avez déjà utilisé, Horacio et Julien, le service public de changement d'adresse?
Moi, je l'utilisais. Et j'étais bluffé parce que je me souviens encore comment ça se faisait avant. Et pour changer un truc dans une carte grise, tu prenais rendez-vous à la sous-préfecture et tu allais... Ouf. Non, c'est... Wow, ça donne tout de suite un changement, une vision de modernité que je trouve génial, quoi.
Ouais.
C'est de la digitalisation, comme ils disent. Pardon.
Moi, je mets un tout petit bémol, parce que je l'ai fait il y a un an. Et donc là, c'était quoi? On a voté en début d'année 2020, T1. Je suis perdu.
Oui,
année?
On est en 2021.
Oui, en 2021, là.
Voilà.
En 2020,
et en fait, quand j'ai pas reçu ma carte d'électeur, etc., j'ai cherché sur un site, on peut trouver dans quel bureau de vote on est. Et en fait, j'étais toujours à mon ancien bureau de vote. Donc, j'ai déjà utilisé ce service deux fois. La première fois, ça m'avait migré aussi des listes électorales, mais pas cette fois-ci.
Mais là, j'ai pas vu la rubrique, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, liste électorale, j'ai pas vu la rubrique.
Donc voilà. Mais donc il y a des, il faut le dire, hein, on a tendance à souvent critiquer pas mal de services publics numériques qui sont, enfin on a tendance à souvent les critiquer, mais il y en a qui sont quand même bien faits et très pratiques. C'est un outil de l'épisode, pas super geek, mais un outil quand même. Donc, si vous déménagez, n'oubliez pas, faites comme Alexandre.
Et si vous achetez une voiture, vous faites tous les changements de carte grise directement par Internet aussi. J'étais bluffé il y a des années. Et en plus, il y avait eu un truc compliqué avec le vendeur que les papiers n'avaient pas été bien faits. Et tout a pu être corrigé avec quelques chances de mail ensuite avec la personne qui traite le dossier derrière. J'ai pas eu à me déplacer. J'ai eu ma carte grise nouvelle par la poste quelques semaines plus tard. Donc, c'était plutôt super bien, quoi.
Oui. Ok. On en a terminé avec cet épisode. Je voudrais en profiter pour rendre hommage à Franck Taillandier qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc Franck était impliqué dans énormément de choses autour du web. Il a participé à l'organisation de plusieurs éditions de Sudweb. Il a co-créé la communauté Jamstack qui s'appelle Jamstack FR. Il animait un podcast sur ce sujet-là. Moi, j'avais été interviewé dans ce cadre-là. Il anime le Slack qu'il y a autour de tout ça. Si vous êtes déjà allé à Paris Web, à Sud Web, dans énormément de communautés à Toulouse et pas que, vous connaissez Franck et vous savez qu'il est plein d'énergie, de sourire, de discuter jusqu'à la fin de la nuit sur tous ces sujets-là. Donc, il va énormément nous manquer. Je vous ai mis dans les liens le lien vers Jamstack pour rejoindre le podcast, le Slack, enfin écouter le podcast, rejoindre le Slack, des liens vers Sudweb et un lien vers un repo qui a été mis en place sur l'orga de Sudweb pour partager des témoignages que vous pouvez avoir à propos de Franck. Voilà, donc on lui fait un coucou et il va beaucoup nous manquer. On termine avec le choix musical d'Horatio.
Musical.
Alors,
pas tout à fait.
Voilà, a priori, Horatio, tu n'écoutes pas beaucoup de musique en ce moment. Parle-nous de ton choix musical.
Mon choix musical, je me suis senti bête quand Uber me l'a demandé. Pourquoi ? Parce que on est tous en télétravail. J'ai passé l'été entier à la maison avec les enfants autour. Et même si je m'isolais un peu, il y avait toujours un peu de bruit. Donc, quand l'école a repris, j'allais mettre un peu de musique. Et je me suis dit, mais non, je vais profiter des silences. Et la seule chose que j'ai mis un peu comme musique, c'était quelques bruits de nature comme fond auditif. Mais en ce moment, ça va revenir, mais en ce moment, j'ai plutôt envie de ça quand je travaille. Donc, j'ai dit, écoute, je vais embrasser ma bretonitude, on va dire, et on va mettre quelque chose que j'aime bien écouter pour me relaxer, c'est les bruits de vagues.
Voilà, donc on va se quitter avec le bruit de la mer et particulièrement un bruit de vague breton, n'est-ce pas, en hommage à Horatio. On vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode. Merci Alexandre, Julien et Horatio. Et on vous dit à la prochaine. Au revoir tout le monde.
Salut.
Salut, bonne journée.